Les sentiers du monde. Une émission proposée par Nadia et Kadri Aga.
Réalisation Majid Fares.
Bonsoir à tous. Kadri Aga, bonsoir.
Bonsoir Nadia.
Qu'allez-vous évoquer pour nous ce soir ?
Eh bien, ce soir, nous évoquerons un pays que je me refusais inconsciemment d'aborder, et ce pour diverses raisons, dont la plus importante est le battage touristique organisé autour de ce pays, qui en fait est merveilleux, et qui me semblait dénaturé par toutes ces hordes d'étrangers qui étaient venus là pour, en quelque sorte, le vider de son âme et de sa faune, parce que bon, c'est un pays qui a une faune exceptionnelle. Surtout au cours de... Enfin, c'est les voyages touristiques, toutes ces organisations touristiques étaient concentrées autour d'un battage qu'on appelait le safari. Safari. En fait, il s'agit du Kenya.
Oui, oui.
Eh bien, le safari, c'est des parties de chasse. Enfin, ce sont des parties de chasse qui étaient organisées. Donc, alors, si vous avez récemment, enfin, ce n'est que récemment, depuis peut-être une quinzaine d'années, 10-15 ans, qu'on n'organise plus des safaris de chasse, donc de tuerie, mais des safaris photos.
Ah bon, oui. Quelle est la différence ?
Eh bien, parce qu'avant, on utilisait des fusils de chasse et on abattait le...
Si vous voulez,
la faune, les animaux. Maintenant, les touristes sont armés de téléobjectifs. Et...
C'est-à-dire que les safaris ont été interdits ?
Non, ils ne sont pas interdits, ils sont limités. Ils sont limités, ils ont été diminués. Et puis, le prix des bêtes qu'on tuait a été très élevé. C'est devenu un plaisir pour riches, pour milliardaires qui venaient tuer du lion ou tuer de l'éléphant ou
tout sort d'animaux. Les gens, justement, ont pris conscience quand même qu'il ne fallait pas tuer ces bêtes.
Non ? C'est-à-dire qu'il y a eu des organisations, comme l'Organisation mondiale, une organisation mondiale qui s'occupe des animaux, enfin de la protection des animaux, comme certaines organisations d'État, se sont élevées parce que, il y a eu des régions où, des régions, surtout en Afrique, des régions qui ont été déséquilibrées sur le plan écologique à partir du moment où tel type de bête avait disparu, avait été totalement massacré et disparu. Et notamment, surtout, le rhinocéros. Le rhinocéros, vous savez, c'est une bête magnifique, une bête qui est en quelque sorte un substrat de la préhistoire. Et on tue cette bête uniquement pour sa corne. Parce qu'on a prêté à la corne du rhinocéros toutes sortes de pouvoirs, dont un des moindres était le pouvoir aphrodisiaque. Alors les gens tuaient des rhinocéros uniquement pour sa corne.
Mais les autochtones ou alors les...
Les autochtones...
Enfin, les touristes, les chasseurs...
Oui, les chasseurs et notamment les autochtones. Les autochtones étaient appâtés par le gain, si vous voulez, par un gain facile.
Ah oui, alors là, c'était pour vendre la corne.
Pour vendre la corne. Et puis, aussi, beaucoup de gens tuaient aussi des éléphants uniquement pour prendre leur défense, les défenses en ivoire. En fait, il y avait une espèce de ratissage qui s'est fait systématiquement, et notamment pour un type de gibier. Enfin, il a fallu que récemment, des organisations se soient élevées, que certains pays aient pris conscience de l'importance de cette faune. Et moi, je me refusais inconsciemment de parler de ce pays, qui est vraiment un pays très très beau. Et il a fallu que récemment, j'accomplisse un voyage à l'étranger pour que... J'ai eu, si vous voulez, qu'il m'ait été donné de voir un beau film, un film exceptionnel qui s'appelle Out of Africa. C'est, le titre français, c'était Souvenir d'Afrique, qui est tiré de l'œuvre d'une romancière danoise, la comtesse Blixen, donc Karen Blixen. Mmh. Et c'est tiré de son œuvre, enfin, plus précisément de Ma ferme africaine, le titre d'un de ses ouvrages. Eh bien, il a fallu que je voie ce film pour que je puisse éprouver l'envie donc, de vous parler de ce pays. Bon, ben, les images du film qui a été fait par Sidney Pollack, donc un Américain, au demeurant d'ailleurs très très belles, eh bien, ces images de film m'ont fait revivre un enchantement, une passion donc, que j'ai éprouvée pour ce pays qui a des sites grandioses et que les catalogues d'agences de voyage ont altéré donc par des organisations de parcours et une information galvaudée. Donc, bon, on a vu de ce pays que ces safaris. Donc, ces safaris, un peu d'exotisme. Enfin, c'est le Kenya. Le Kenya, c'est le pays du lion aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez le fameux roman de Joseph Kessel. Moi, dans mon enfance, après avoir lu Le Lion, j'ai toujours rêvé de ce pays. Et justement, c'est à travers ce roman, cette œuvre, que j'avais appris à connaître, enfin, je dis appréhender, si vous voulez, les Maasai. Les Maasai, parce que Kessel parle des Maasai, de la chasse au lion, par les Maasai. Les Maasai, qui est une des ethnies, et non... Enfin, une des plus importantes, celle qui caractérise en quelque sorte le Kenya.
Et les lions, est-ce qu'ils attaquent les hommes?
Vous savez, je vous en ai parlé déjà une fois lorsque nous avons abordé certains pays. Les animaux, quels qu'ils soient, ne s'attaquent à d'autres animaux et à d'autres espèces, et en l'occurrence l'homme, que lorsqu'elles se sentent obligées, c'est-à-dire que lorsqu'elles se sentent en danger, ou bien lorsqu'elles le font pour se nourrir. Mais vous ne verrez jamais un animal faire du gâchis, donc tuer. Par exemple, ça se remarque d'ailleurs au Kenya, dans la savane africaine en général, il est souvent, vous voyez des troupeaux de gazelles, de zèbres, d'impala, enfin de gnous, enfin toutes sortes d'animaux, qui, après avoir été attaqués par un groupe de lions, parce que le lion chasse en groupe, après avoir été attaqués par un lion, n'ont plus d'inquiétude à se faire et ne s'éloignent plus, parce que le lion a déjà pris son dû, si vous voulez, sa proie, et c'est fini. Le lion ne va pas massacrer, il ne va pas tuer deux, trois, et le lion ne thésaurise pas, donc il ne garde pas. En plus de la chair animale, il tue pour se nourrir. Bon, lorsqu'il est repu, ça lui suffit. Vous pouvez passer à côté, pas de problème. Enfin, quel que soit l'animal.
Oui, alors les animaux savent que lorsque le lion est repu, ils peuvent.
Oui, ils le sentent.
Vaquer à leur gré.
C'est quasiment une organisation parfaite. Oui. Et puis, bon, généralement, bon, quand un lion s'attaque à un troupeau, ou quand un prédateur, quel qu'il soit, s'attaque à un troupeau, il procède, si vous voulez, à une espèce d'équilibrage écologique. Bon, il prend les plus faibles. Les plus faibles, et généralement, ce sont. Il n'y a que les plus faibles qui se font prendre. Ce sont soit les vieux, ou alors
les
malades, oui. Effectivement. Mmh. Et c'est comme ça qu'il arrive à. Que la nature trouve son compte.
Oui.
Enfin, eh bien, je vous ai parlé donc de ces romans, et notamment, je reviens, j'insiste sur Le Lion de Kessel. Je me souviens, quand j'étais adolescent, j'avais lu ce roman, j'étais passionné par cette partie de l'Afrique et ce pays merveilleux qu'était le Kenya. Eh bien, lorsque j'y suis allé la première fois, ça m'a fait une drôle d'impression, parce que, bon, bien sûr, il y a le conte, il y a la narration qui est souvent enjolivée, qui est très belle. Et puis, bon, il y a la découverte que vous faites. Parce que avec la narration, il y a l'imagination,
l'imagination
qui se fait en plus, et la découverte. Alors, cette découverte parfois a été choquante, en ce sens que, bon, je ne m'attendais pas à trouver ce genre de site. Ce site me paraissait différent. Et d'autres fois, elle était encore, si vous voulez, cette découverte était magnifiée, notamment par la brousse. Et la brousse est le pays, et surtout les ethnies. Parce que, surtout devant ces sites, devant ces immenses étendues herbeuses, devant un lac où vous avez des flamants, vous avez des ibis, vous avez toutes sortes d'oiseaux qui, à un moment donné, se mettent à prendre leur envol, eh bien, je ne trouverai aucun mot pour le décrire. Toutes les descriptions, quelles qu'elles soient, n'arrivent pas à rendre l'émotion que vous éprouvez à ce moment-là. Et là, effectivement, c'était un constat. Bon, eh bien, les lions, bon, bien sûr, la première fois qu'on se trouve en face d'un lion, bien sûr, on le photographie, c'est pour le photographier, non pas pour le tuer, enfin, dans mon cas. Eh bien, ça fait une drôle d'impression, parce que, justement, on a l'impression d'avoir faire un gros chat.
Un gros chat indolent. Presque.
Oui, il est là. Non, on n'approche pas, mais surtout quand il a... Quand il a accompli, si vous voulez, quand il s'est nourri après avoir eu son festin, alors là, vous pouvez sans risque passer tout près.
Alors, même en regardant une belle image avec de beaux oiseaux, avec de beaux animaux, avec de l'eau et de la grande herbe, on ne peut pas imaginer. Il faut voir.
Ah, je pense qu'il faut voir. Ouais. Je pense qu'il faut voir et je m'excuse, enfin, je prie nos auditeurs de nous excuser parce que je ne saurais pas rendre exactement cette atmosphère, en racontant, en parlant de ces endroits. De toute façon, le Kenya, pour beaucoup de gens, c'est le tourisme, c'est safaris organisés, qui sont organisés, donc... On amène les gens dans des parcs nationaux, des réserves. Enfin, des réserves qui sont relativement protégées. Enfin, protégées, il y a des gardes forestiers, enfin des gardes de ces parcs, pour éviter qu'il y ait du braconnage, parce qu'il y a beaucoup de braconnage. Et, le Kenya, d'ailleurs, possède beaucoup de ces parcs nationaux. Il en possède, en principe, 40. Il y en a 40. Enfin, je me souviens, à l'époque, il y en avait 40. Eh bien, le plus vaste de ceux-ci est celui de Tsavo, qui est au sud de... Et il possède pratiquement plus d'une vingtaine de milliers de kilomètres carrés de savane et de bouche. Le bouche, donc, c'est les petits buissons, c'est le maquis, donc, de bouche. Et il y a aussi... il est, si vous voulez, bordé d'une partie de lave, d'une partie où... Des volcans avaient, à peine d'ailleurs, les volcans sont encore en activité dans ces régions, et ces volcans ont dessiné des immenses traînées de lave. Et c'est un des plus beaux endroits. Eh bien, il comprend le lac des sources de Mzima, qui ce sont des eaux cristallines descendues du Kilimandjaro. Eh bien, et le Kilimandjaro, donc je vous ai dit que c'est des neiges éternelles, qui ont fait, bien sûr, puisque vous allez parler, tant rêver, surtout dans notre enfance, il y a plus de 30 ans. Et surtout, ces neiges, elles se présentent sur un sommet plat. D'ailleurs, le Kilimandjaro ressemble d'une certaine manière. De loin, on dirait un volcan éteint et coiffé, parce qu'il a une forme, en quelque sorte, volcanique. Et le dessus, donc, il a un sommet plat, pratiquement plat, arasé, donc, en quelque sorte. Et ce sommet émerge en permanence, mais alors vraiment en permanence, il est rare, je ne sais pas si c'est possible, il est rare de voir ce sommet sans nuages. Alors il émerge en permanence, il y a toujours une espèce de ceinture, de collier de nuages sur ce sommet.
Alors ce qui fait qu'on ne le voit, on ne le voit pas.
Si, on le voit, mais on le voit, si vous voulez, il y a comme une auréole qui entoure, enfin quelque chose qui entoure le collier de ce sommet. On voit juste le sommet émerger, les nuages, et puis le reste du Kilimandjaro, la montagne des pieds. Et donc c'est comme... Et puis il y a souvent, ça dépend de l'endroit où on se place, comme il y a de la neige, il y a des nuages, l'humidité, puis le soleil, il y a souvent un arc-en-ciel. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. On a l'impression que c'est un designer, donc un décorateur, qui est venu placer ça comme ça pour l'éternité. Et comme ça, donc tous les touristes pourront venir poser devant cet arc-en-ciel et ces neiges éternelles. Et c'est assez beau. Bon, eh bien, tout près de là, il y a... Donc, si vous voulez, tout près de Tsavo, de la réserve de Tsavo, il y a celle d'Amboseli, qu'immanquablement tous les touristes venus au Kenya visitent. Parce que Enfin, Amboseli, c'est pratiquement la plus célèbre. Elle est parmi les plus célèbres et elle est en faune animale, celle qui est la mieux, en quelque sorte, fournie. Vous avez toutes les espèces. Et parmi les plus célèbres, il y a aussi celle de Mérou. Celle de Mérou qui est à cheval sur les deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, donc l'équateur.
Mais on ne chasse pas dans les réserves ?
Non. Dans ces réserves, on ne chasse pas. On amène les touristes uniquement pour faire des photos et voir des animaux, donc aller se dépayser. Et ce qui est assez amusant, c'est que ces touristes arrivent dans des espèces de minibus, donc tout terrain, et tout le monde est armé d'appareils photos. Et ces guides qui conduisent en quelque sorte les minibus parlent entre eux en swahili pour demander, d'ailleurs avec des walkie-talkie, en disant « Tiens, on a vu un lion là, alors tout le monde accourt. » Dès qu'un lion est repéré, tous les minibus
se dirigent.
Oui, convergent vers l'endroit qui est signalé par celui qui l'a repéré. Et tous les touristes se retrouvent là. C'est comme ça que si, par exemple, des touristes sont au Kenya à la même période et ils ont de fortes chances de se rencontrer parce que à un moment donné on a signalé la présence d'un lion, parce que tous les minibus convergent vers l'endroit où il y a des lions, tellement le lion est rare. On a dû d'ailleurs récemment au Kenya importer des lions d'Afrique du Sud pour les lâcher là-dedans, et même pour le film de Sidney Pollack, pour pouvoir réaliser son film, parce qu'il a réalisé son film au Kenya. Donc les extérieurs ont été faits au Kenya. Et bien pour pouvoir réaliser son film, ils ont dû importer des lions spécialement qu'on a lâchés là. C'est assez extraordinaire.
Oui, enfin, pour un endroit réputé.
Ah oui. Non, il y a plus de lions. On en a tué sans tenir compte justement du déséquilibre qu'on allait provoquer. Enfin, la réserve de Mérou, elle s'enorgueillit de ces rhinocéros à peau claire, parce qu'ils sont rares partout en Afrique. Donc, et en fait, ils sont importés eux aussi, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en avait plus, ils ont été importés. Donc, et surtout aussi du souvenir de Joy Adamson, qui avait apprivoisé, d'ailleurs je pense que nos auditeurs ont vu cette série, Joy Adamson avait apprivoisé la lionne Elsa. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une série télévisée qui a fait pleurer le monde entier. Eh bien, Joy Adamson a vécu dans cette réserve-là, et c'est là qu'elle a rencontré Elsa, qu'elle a donc à Mérou, qu'elle a élevée. Et elle a tiré, bien sûr, un best-seller qui s'appelait « Vivre libre », je crois.
Vivre libre.
Oui. Alors, et il y a aussi celui de Samburu, qui est le territoire par excellence des autruches. Oui, alors c'est plein d'autruches. Des fois, elles font la course avec les jeeps et les Land Rover. Hein. Et surtout, et c'est assez exceptionnel dans cet endroit, vous avez des girafes réticulées. Les girafes réticulées ont des espèces de guêtres blanches, donc à leur cheville, pratiquement, ce sont des guêtres blanches, mais et elles ont un pelage cloisonné de lignes blanches géométriques, c'est-à-dire à la différence des autres qui sont tachetées rondes. Mmh. Celles-ci ont des lignes blanches sur toute leur pelage. C'est comme des réticules de serpents, en quelque sorte, ou de lézards. C'est rare. C'est une espèce très, très rare. C'est une spécialité du Kenya, et elle est beaucoup plus rare donc, que l'autre qui est achetée. Puis chacun des parcs réserve ses vedettes animales, bien sûr. Chacun a, je vous ai dit, celui-ci a ses girafes, l'autre ses rhinos.
Les flamands, il y a des flamands.
Les flamands, ils sont sur tous les lacs.
Ah, bon.
Oui, sur tous les lacs. En fait, chacun a ses vedettes animales, enfin ses stars, comme tu dirais.
Oui.
Vous savez, le mot n'est pas très fort, parce que généralement, les lions prennent la pause. Parce qu'ils savent que tout le monde est là en train de les mitrailler, donc avec leurs les appareils photo, ben, on a l'impression qu'ils prennent la pose. Tellement ils sont habitués. Ils sont habitués à la présence de l'homme qui est arrivé depuis, disons, une vingtaine d'années, qui arrive comme ça en groupe. Et puis, ils sont habitués à tous ces cliquetis d'appareils, ces déclenchements de 24-36 réflexes. Donc, tout le monde. Alors, on a l'impression qu'ils prennent la pose. Eh ben, cependant, d'ailleurs, partout, vous rencontrez des gazelles, partout. Alors, vous rencontrez des gazelles, des antilopes, des impalas, des cops, qui sont aussi des variétés de gazelles avec des cornes. Vous avez des oryx aussi, qui sont dans la même espèce. Vous avez des gnous. Des gnous, c'est un animal quasiment préhistorique, qui est en quelque sorte, qui est une synthèse de la gazelle et du bison. Vous avez des zèbres, des buffles, vous avez des secrétaires.
C'est quoi?
Oui, et bien, le secrétaire, c'est un aigle qui passe son temps. Enfin, c'est une espèce d'aigle qui a une allure un peu majestueuse. Et qui passe son temps à chasser dans les marigots, dans les endroits mouillés, des serpents. C'est un aigle mangeur assez haut sur pattes, donc, et puis très beau d'ailleurs. Il a une attitude assez fière comme ça. Il marche la plupart du temps. On le voit le plus souvent marcher que voler. C'est un aigle marcheur.
Oui, voilà. Pour trouver les serpents.
Exactement. Bon. Vous avez des guépards, vous avez des hyènes, vous avez des léopards, vous avez des vautours, vous avez des panthères, vous avez des crocodiles partout. Les crocodiles, des hyènes mardeaux, des rhinos.
Mais le lion, des
hippos. Enfin, les rhinos, moins. Les rhinos, c'est juste dans certains endroits.
Et le lion se nourrit surtout de gazelles.
Oui. Oui, enfin, de gazelles, de zèbres, toutes sortes d'animaux, surtout les animaux mammifères. Bien sûr, il y a le lion, lui, est le seigneur. Il est le seigneur de tous les safaris, le seigneur de la forêt, parce qu'il est le plus majestueux, le plus beau, le plus noble et le plus recherché, du fait qu'il est rare. Et tout le monde le traque. Tout le monde le traque pour essayer de le trouver, pour pouvoir faire un safari au Kenya, revenir sans une photo de lion. Mon Dieu, quel désastre. Alors, chacun va voir son lion, hein. Vous savez, les gens ne posent pas à côté du lion, heureusement que les gens sont encore peu téméraires, mais il faut avoir un lion au bout de sa pile. Enfin, eh bien, les touristes, tous ces gens qui font des safaris, sont accueillis, vous savez, c'est très très bien organisé. Les gens arrivent, tout est organisé pour eux, donc ces chasses, ces photos, donc ces chasses de photos, ces safaris photos, ces déplacements et tout ça. Et puis, en pleine brousse, ils sont accueillis dans, si vous voulez, dans un cadre sensationnel. Donc, en pleine brousse, vous êtes assuré du confort 4 étoiles. Hein.
Oui,
c'est assez extraordinaire. Alors, dans des hôtels qu'on appelle des lodges, donc à l'anglaise, puisqu'on parle anglais, je vous rappelle que le Kenya était une ancienne colonie britannique et qui a eu son indépendance en 1960, après qu'il y ait eu un soulèvement dont, je ne sais pas si vous vous souvenez à cette époque, fin des années 50, début 60, au moment de la guerre de libération de l'Algérie aussi, on parlait des Mao-Mao, qui étaient les plus coriaces pour les Anglais.
Oui.
Enfin, c'est une ethnie dont Jomo Kenyatta était le leader, et Jomo Kenyatta est devenu le président. Et Jomo Kenyatta, qu'on a surnommé le vieux lion. Jomo Kenyatta est mort depuis, mais il est resté longtemps à la tête de son pays, du Kenya. Alors, vous avez ces lodges, qui sont des hôtels extraordinaires. Vous avez, et les uns sont plus accueillants que les autres. Chacun est plus beau que l'autre, tellement c'est très très bien fait.
Alors il y a une infrastructure touristique considérable.
Considérable. Ah oui, l'investissement en ce domaine, vous savez, les gens n'ont pas lésiné sur les moyens. Alors vous avez des bungalows ronds, des cases ou des tentes qui sont super luxueuses. Vous savez, tout le confort.
Oui.
Eau chaude, eau froide, climatisation. Oui. Ah oui, c'est le très grand,
Bon. La tente, c'est pour faire encore plus vrai.
Oui, à la limite, c'est pour les gens.
L'épaisement plus complet.
Oui, plus complet. Plus complet, en fait, ça fait partie du jeu organisé. Et tous ces bungalows, enfin, toutes ces tentes et tout, sont noyés dans des jardins luxuriants, organisés. La brousse est à peut-être 500 mètres, mais autour, vous avez donc un jardin à l'anglaise, un type de jardin à l'anglaise. Et chaque lodge possède aussi son propre bar, où vous trouvez tout, son restaurant, sa piscine. Après avoir fait une partie de chasse toute la journée, les gens aiment bien se détendre sur leur piscine. Et chacun, et c'est là, je crois, la chose la plus sensationnelle, chacun offre un breakfast, donc un petit déjeuner extraordinaire. Alors là, les petits déjeuners, c'est le petit déjeuner, soit dit ça, à l'anglaise, mais à l'anglaise kényane. Kényane. Parce que, alors vous avez sur des tables, c'est des buffets, d'abord vous avez, c'est des buffets où voisinent avec abondance toutes sortes de chairs, toutes sortes de viandes froides. Ouais. Bon. Et puis, vous avez des céréales, toutes les céréales possibles et imaginables. Vous avez toutes sortes de boissons chaudes et froides, des jus de fruits. Donc, vous avez des fruits, même des montagnes de fruits qui sont très beaux, qui sont splendides et délicieux. Tous les fruits exotiques, tous les fruits des tropiques qui sont là. Et vous avez la série de Jell-O, qui sont les confitures, enfin les gelées anglaises, les marmelades. Vous avez les tartes, les pies à l'anglaise. Vous avez les trifles qui sont en quelque sorte les petits riens, ceux qu'on grignote comme ça, un petit déjeuner. Qui témoignent, et tout ceci témoigne du passé justement de la colonisation. Eh bien le soir, les lodges sont souvent placées autour de points d'eau, où les animaux viennent se désaltérer. On ajoute, le soir, donc dans ces loges, on ajoute entre autres attractions le spectacle, un spectacle lumière. Je ne dis pas son et lumière, mais presque. Vous avez le son, tout le monde se tait, et c'est un spectacle lumineux à force de projecteurs. Parce que ces projecteurs transforment les animaux qui viennent. Les animaux se désaltèrent la nuit souvent. Surtout les fauves. Alors ils viennent se désaltérer et on les illumine à coups de projecteur et vous avez un merveilleux ballet nocturne. Bon, alors les gens, bien sûr, continuent à faire des photos et c'est très très beau. Vous avez tous les animaux deviennent des bêtes de scène en quelque sorte. Oui. Ouais. Et quelle scène, une scène extraordinaire. Vous savez, le Kenya, lorsqu'on a parlé de l'indépendance du Kenya, on a parlé des Mau-Mau. Bon, il n'y a pas eu que les Mau-Mau pour lutter en faveur de l'indépendance. Il y a eu aussi les Kikuyu. Les Kikuyu qui sont une ethnie assez rude aussi, mais qui sont connus comme les meilleurs agriculteurs d'Afrique. Mmh. Il n'y a pas agriculteur aussi capable qu'un Kikuyu. Un Kikuyu, vous lui donnez un morceau de montagne, il vous le transforme en jardin luxuriant. Ouais. Alors vous avez les Kikuyu, vous avez, et entre autres, bon, vous avez aussi, il y a des Somalis, vous avez entre autres aussi, et les plus importants, les Maasai dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les Maasai sont un peuple étrange, c'est vraiment un peuple extraordinaire. Je me souviens, j'étais allé en Tanzanie, et le gouvernement tanzanien, à l'époque, lorsqu'il y avait le président Nyerere, avait essayé, donc comme le gouvernement kényan et ougandais, parce que les Maasai étaient vivent sur pratiquement ces trois pays, un peu, donc autour de ces régions-là. Eh bien, il a essayé de les sédentariser. Mais il s'est aperçu à temps qu'il ne fallait pas forcer parce que il arrêtait les frais. Et les Kenyans, eux, n'ont pas cessé donc d'entreprendre une politique de sédentarisation de ces Maasai. Vous comprendrez que les Maasai, c'est un peuple de nomades. Un peuple de nomades, ils sont nomades parce que ce sont des éleveurs, ce sont des pasteurs. Ils vivent de pastoralisme. Donc, le pastoralisme. Il faut vous dire que le pastoralisme est une des caractéristiques de certains peuples. Il y en a deux, il y a soit l'agriculture ou le pastoralisme pour les peuples primitifs. Eh bien, et une des caractéristiques des peuples pastoraux, c'est la transhumance, le nomadisme. On l'a déjà vu un peu partout, les gens se déplacent. Eh bien, pendant une partie de l'année, ces gens vivent rassemblés dans certains endroits, dans les terres basses, mais quand l'herbe et l'eau se font rares, ils gagnent les pâturages de montagne. Bon. Eh bien, cette vie implique une interdépendance, d'ailleurs, de l'homme et des animaux domestiques. Donc, il est indispensable que le troupeau dispose de pâturages, qu'il soit bien soigné, donc le troupeau soigné, et protégé. Donc, et toute chose pratiquement pour lesquelles la présence pratiquement abondante de l'un, en quelque sorte, est nécessaire à l'autre. Il y a une interdépendance, une liaison permanente. Et il y a, en quelque sorte, une unité résidentielle et économique qui est liée, qui est la famille, du fait du pastoralisme. Chacun, et cette famille est souvent, quand on a vu, quels que soient les peuples pastoraux que nous avons vus jusqu'à présent, notamment même quand on a vu le Ladakh dans les Himalayas, quand on a vu les peuples pastoraux en Amérique, quand on les a vus ailleurs en Afrique, eh bien, généralement, les peuples pastoraux sont des peuples polygames. Donc, ils ont plusieurs épouses. Et c'est souvent des sociétés de type patriarcal, généralement. Le troupeau chez ces peuples pastoraux, et notamment chez le Masaï, c'est le troupeau est la propriété du chef de famille. Le chef de famille, il possède à peu près de 50 à 150 têtes. C'est la moyenne, généralement, chez les Masaï. Les hommes s'occupent des troupeaux et les femmes, elles, des produits laitiers. Eh bien, les Masaï, eux, tirent tout, pratiquement tout, de leur troupeau. Et s'ils tirent tout de leur troupeau, ils sont pratiquement condamnés à ne s'occuper que de ça, que de leur troupeau. Et les troupeaux, c'est la transhumance, c'est le nomadisme. Vous les fixez, vous les obligez à se sédentariser, vous les condamnez à mourir.
Ben oui, oui. Et parce qu'il faut que leur troupeau vive.
Vive. Oui, oui. Alors bon, et les autorités kényanes, jusqu'à présent, s'efforce de les sédentariser. Les Masaï, c'est un des peuples les plus fiers, les plus nobles du continent. Ils sont assez extraordinaires. Ils sont drapés dans leurs choukas. Les choukas, c'est une espèce de tissu ocre, rouge, qu'ils attachent juste là sur l'épaule. Et ils s'entourent. Ils n'ont que ça comme vêtement. Et ils ont une lance, une sagaie à la main. Cette sagaie, elle est souvent démontable. J'en avais ramené quelques-unes. Vous savez, c'est un bout de bois. Vous mettez d'un côté, on enfonce une partie métallique très fine qui se plante, qui est filée, qui peut se planter, et qui est l'arrière. Et de l'autre, une autre partie qui part en s'évasant en pointe. C'est la partie qui tue, la partie avec la lame. Donc il y a différentes lames. Il y a une lame courte et une lame longue. La lame longue, c'est pour chasser le lion. La lame courte, c'est pour la guerre. Et ils ont toujours cette sagaie à la main et un bâton. Un bâton, donc, c'est pour faire avancer les bêtes.
Et la sagaie pour se défendre au cas.
Oui, la sagaie pour se défendre. Oui. Pour se défendre s'ils sont attaqués par un lion ou par d'autres gens. Eh bien, ce sont des pasteurs qui ont l'air indifférent tout le temps. Et ils ont l'air indifférents à tout ce qui les environne et au temps qui passe.
Et ils le sont en réalité, quoi. Ils ont l'air.
Ils le paraissent. On ne sait pas. Ils sont indifférents à tout, sauf à leur troupeau, qu'ils gardent jalousement. Et vous savez, ils se sont vraiment de superbes guerriers. Karen Blixen, justement, dans son ouvrage Dans ma ferme africaine, elle parle des Masaï. Et elle les a côtoyés, elle a souvent pris leur défense. D'ailleurs, dans le film et dans l'œuvre, elle s'était occupée, elle voulait à tout prix que ces petits Africains, les petits Masaï, les petits Kikuyu, aillent à l'école. Bon, elle s'est aperçue après de son échec. Elle voulait les forcer à aller à l'école. Elle, non pas pour les identifier, mais en quelque sorte pour les armer.
Oui, oui.
Les armer contre, justement, ces colons qui venaient tout leur prendre. Eh bien, elle les a côtoyés, et elle est décrite dans une attitude à la fois passive et insolente. Elle dit « Ils sont presque aussi minces que leurs piques miroitantes. Oui. » Je lis ce qu'elle a... Et qui se laissent admirer, ils se laissent admirer, regarder comme des statues, justement, comme des statues miroitantes.
Alors ils sont, disons, superbes, quoi.
Ils sont superbes, oui. Ah, ils sont vraiment superbes. Vous savez, les Magaï, bon, ils n'ont jamais été des esclaves. Ils n'ont jamais été des esclaves, et ils ne le seront jamais. C'est vrai, elle a dit d'ailleurs, elle le dit elle-même, ils sont jamais... Vous savez, elle dit aussi, elle dit, si vous les mettez... si vous les emprisonnez, vous les mettez en détention, ils meurent au bout de 3 mois.
Ils se laissent mourir.
Ils se laissent mourir. Oui. Ils ne peuvent pas rester à un endroit sans bouger. Ils meurent au bout de 3 mois. C'est un peuple qui est d'origine nilotique, c'est-à-dire des abords du Nil. Alors, bon, les peuples nilotiques, les peuples nilotes, sont généralement les peuples qui sont concentrés autour du Nil soudanais. Vous avez les Nouba, dont on aura peut-être l'occasion de parler une fois, et qui sont donc les Dinkali, vous avez beaucoup de gens qui sont des Nilotes. Et les Masaï, leur origine serait nilotique. Hein, ils viendraient de l'Omdurman, qui est une région du Soudan, la région soudanaise nubienne. Et ils ont atteint les hauts plateaux du Rift, de la Rift Valley. Vous savez, le Rift, on en a souvent parlé. C'est cette partie qui part depuis la région de Lomo en Éthiopie, donc une région de l'Éthiopie, et qui va jusqu'au lac Turkana, l'ex-lac Rodolphe, qui donc, c'est une partie, et qui une vallée où on a trouvé, où le docteur, surtout bon, le lac Turkana, est dans la partie... de l'Oldovaï. Donc, il y a eu le docteur Leke, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait fait des découvertes sensationnelles et qui avait découvert des restes donc, de certains hommes, certains anciens, de certains squelettes hominiens, et qui seraient nos plus lointains ancêtres. Et d'après lui, c'était l'Homo habilis, donc l'homme habile, l'homme qui a su... le premier, utiliser ses mains pour façonner des objets. Et, bon, ces gens, donc les Masaï, eux, sont venus depuis cette région, et ils sont venus s'établir, donc, dans le Rift, qui est la région du Turkana. Pour refermer la parenthèse sur le docteur Leke, son homme, il l'appelait le Zygentropus. Bon. Zygentropus, bois ici. Alors, eux, ils sont venus, les Masaï ne sont pas venus il y a 1 700 000 ans, comme ce Zygentropus, oui. Bois ici. Ils sont venus dans cette région, la région du Turkana, il y a à peu près... 4 siècles, un peu plus de 4 siècles, au long d'une très longue migration. Et ils se sont fixés au Kenya, et on les comprend, parce qu'au Kenya, l'herbe est partout verte. La nature est très très belle. Alors ils sont fixés là, pour leur troupeau, et ils sont restés. Il y a... Le Masaï a toujours eu une vie rude, et il a toujours souhaité avoir une vie rude.
Alors, il a ce qu'il veut.
Il a ce qu'il veut. C'est-à-dire, cette rudesse l'oblige à tenir en respect tous ceux qui convoitent son troupeau, qui convoitent les vastes espaces de son troupeau, sur lesquels vont paître, sur lesquels il nomadisait. Et il est resté. Il a toujours un comportement atavique. La vie du Masaï est liée à ces pâturages, ces immenses pâturages. Et ce sont des lignes qu'ils empruntent régulièrement, qu'ils empruntaient maintenant, parce que beaucoup de ces lignes ont été interrompues par des implantations donc, de colons. Les éleveurs Masaï sont à la tête donc, d'un immense troupeau. c'est le troupeau le plus important de cette partie du Kenya en général, de la Tanzanie et de l'Ouganda. L'État kényan a voulu systématiser, moderniser cet élevage en les fixant dans des espèces de ranchs, des ranchs avec tout le confort, donc avec bien sûr des vétérinaires.
Ils ne se déplaceraient plus, quoi.
Ça n'a pas marché. Ça a été la catastrophe. On a voulu les obliger. Ça a été vraiment la catastrophe. Depuis la colonisation, d'ailleurs, ces pasteurs qui sont des pasteurs sans frontières, puisqu'ils émigrent entre ces trois pays, ils ont vu petit à petit leur terre de parcours se réduire comme peau de chagrin. Actuellement, depuis que je vous ai dit, ils sont cantonnés dans des réserves tribales, hein, comme ces animaux qu'on a parqués dans des réserves, enfin qui ne sont pas parqués, les animaux, mais on les a limités dans certaines réserves. Et ces réserves sont entre le lac Victoria et le mont Kilimandjaro. Toute une partie, on les a cantonnés là. Ils ont été chassés des meilleures terres. Et ils se trouvent actuellement confinés dans les moins bonnes, en butte aux déboires climatiques. Parce qu'il y a eu, surtout il y a quelques années, une sécheresse qui a frappé même cette région verdoyante, la région du Kenya. C'est la sécheresse qui a décimé leur cheptel et qui, par là même, les a décimés, en quelque sorte. Et l'administration britannique, d'abord, du temps de la colonisation, puis les autorités kenyanes ont tenté à maintes reprises, je vous ai dit, donc de les sédentariser, de les fixer et de les faire changer de mode de vie. À force de lois, de modifications, de droits coutumiers, parce que le droit coutumier leur donnait un truc, le fait d'approprier, d'avoir une appropriation collective. Ils ont changé en une idée, donc, de droit individuel, de propriété individuelle. Les Maasai, eux, furent lésés, donc petit à petit, parce qu'on a enlevé, des terres, les terres de pâturage, leurs terres, les terres où ils avaient l'habitude d'accomplir leur transhumance, et on a mis en plein milieu de ces terres, on a mis des kikuyu qui ont changé ces terres, bien sûr, qui les ont rendus riches et florissants, parce que ce sont d'excellents agriculteurs, je vous l'ai dit. Ça a créé des tensions. Les Maasai, depuis petit à petit, ils n'ont plus de parcours, ils n'ont plus de refuge d'hiver, ils n'ont plus de terre d'été. Et petit à petit, ils se sont retrouvés appauvris.
Les Kikuyu, eux, sont agriculteurs, ne sont pas pasteurs.
Les Kikuyu sont des agriculteurs. Justement, c'est un mode de vie différent. Toutes les tentatives qui ont été faites par les autorités pour les fixer, se sont soldées par un échec. La logique de l'État leur a toujours été étrangère. Elle était décidée par d'autres, elle leur a été étrangère. Ce sont des gens qui n'ont jamais accepté une quelconque transformation dans leur mode de vie. La politique qui les a concernés, d'ailleurs, il y a une politique. Cette politique a été décidée pour eux. Ils n'ont pas été du tout sollicités. Même s'il y a eu un moment donné, parce qu'ils ont eu, on a pris des représentants dans l'Assemblée nationale, on les a pris un peu partout, donc dans diverses associations. Mais leurs représentants, ont tout de suite tourné kazakh, ils les ont ignorés. Mais leurs représentants n'ont pas parlé pour eux. La grande masse, vous savez, les Maasai, ils sont très nombreux, surtout au Kenya. Ils représentent à peu près, je pense, à l'époque, plus de 600 000 personnes. Tout d'un coup, c'est les recensements. Mais ils sont plus nombreux, beaucoup plus nombreux. Certains ont été fixés, sur une terre. Bon, ils ont pu aussi troquer leur lance pour un instrument aratoire, pour une houe ou quelque chose. Mais ça s'est soldé par un échec. C'était d'ailleurs même catastrophique. C'était déplorable.
Il leur fallait devenir agriculteurs, c'est cela?
Oui, bon, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Oui. Si on les fixe, c'est pour qu'ils deviennent agriculteurs. Oui. Ils n'ont jamais su bêcher le sol. Donc, ça n'a pas été du tout. Alors, d'autres sont allés à Nairobi. Nairobi, la capitale. Bon, Nairobi, c'est une capitale, mais qui, en quelque sorte, qui est assez charmante, mais elle n'a rien d'une capitale. C'est un gros village, un très gros village.
Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant?
Oh, ben, rien de particulier dans cette ville, si ce n'est peut-être l'hôtellerie internationale. Il y a de grandes avenues avec des parcs à l'anglaise, bien sûr.
Alors, si je comprends bien, au Kenya, beaucoup de choses sont faites par rapport au tourisme.
Le tourisme, tourisme. Bon, le Kenya est un producteur de café, mais ce n'est pas suffisant. L'industrie touristique est très importante. Alors, il y a beaucoup d'hôtels internationaux, enfin d'hôtels. Toutes les chaînes sont représentées. Et vous avez bien sûr ce qu'on remarque à Nairobi, c'est les groupes d'étrangers qui s'entrecroisent dans les rues. Mmh. Et puis, il y a à Nairobi aussi un musée historico-ethnologique. Enfin, il y a juste quelques petites représentations ethniques de certaines peuplades, enfin, sur ces peuples. Vous avez un joli parc botanique et un marché où l'on trouve, entre autres légumes, bien sûr, puisque vous avez tous les légumes tropicaux qui sont là. On trouve des pierres ponces naturelles et des sacs de sisal. Le sisal, c'est une espèce d'agave fibreuse, et dont les fibres sont des fibres textiles, sont tissées. Alors, ces sacs sont teintés, donc de couleur pastel africaine. Vous avez, et c'est assez extraordinaire, il est là depuis très longtemps, un magasin Woolworths. Le magasin Woolworths, c'est la chaîne américaine. C'est en quelque sorte prise unique, Monoprix.
Enfin.
Oui, qui est là. Enfin. Et alors, là, ce qu'on remarque, c'est les cabines téléphoniques rouges, comme à Londres. Oui, c'est là. Eh bien, donc, les Maasai qui vont là vont rejoindre le flot des autres ethnies africaines qui viennent former le lot de travailleurs pour ceux qui ont la chance de trouver du travail, donc de petits métiers, ou alors beaucoup d'oisifs. Donc, comme ça. Enfin, d'autres sont ceux qui ont été placés dans des réserves, placés sur le trajet des parcours touristiques. Eh bien, eux, vous savez, ils ont compris, ils font visiter les touristes contre des espèces sonnantes et trébuchantes, et même très chères, leurs maniata, qui sont des igloos, en quelque sorte, enfin des cases de boue séchée, sous des branchages, qui leur servent de demeure. Vous savez pourquoi des boues? Ce sont des cases très très frustes. On prend des branchages et au-dessus des branchages, on met de la boue. Pourquoi? Parce que ce sont des nomades. Ils ne savent pas construire. Ils n'ont jamais su construire en dur. Alors on fait vite un maniata rapide. On prend des branches et puis on prend de la boue qu'on met partout pour éviter qu'il y ait des infiltrations. Et c'est tout. Alors on l'a. Et puis aussi, ils posent volontiers pour des photos.
Pour des photos.
Ah oui, c'est payant. Enfin, il y a à peine quelques années, il y a à peine quelques années, il était impossible, je vous dis impossible, de photographier un Maasai. Vous risquiez même quelque chose de très très grave, il vous lançait sa sagaie. Parce qu'ils avaient peur qu'on leur vole leur âme. Pas question. Les autorités kenyanes voulaient à tout prix scolariser leurs enfants pour les amener. Ils se sont heurtés à la tradition communautaire qui veut que les enfants s'initient au pastoralisme d'abord, fassent comme leurs ancêtres, pas de problème. Et surtout à la guerre contre l'ennemi, qu'il soit homme ou lion. Les rites d'initiation, c'est à l'âge de la puberté, aux environs de 11 ans, les garçons quittent leur famille et se retrouvent entre eux donc pour assurer la défense de la terre, du troupeau et des gens du village. C'est une longue période d'initiation à l'issue de laquelle ils deviennent des adultes et peuvent prendre des femmes et fonder une famille. Il arrive que durant leur initiation, ces jeunes guerriers qu'on appelle des Morans, arrive à engager des actions contre des bantous paisibles, enfin, soit des kikuyu qui ont des fermes et tout, qui sont des paisibles citoyens, donc des citoyens de base, qu'on appelle au Kenya des wananchi. Bon, ça, je ne sais pas si ça vous rappelle, je vous vois sourire, quelque chose d'analogue en Madagascar. Et les jeunes gens allaient voler du bétail.
Oui,
c'était pour affirmer.
Oui, c'est pour
ils
ça.
Ils vont voler du bétail et des objets donc à ces gens. Ils vont voler pour prouver leur bravoure.
Oui, et démontrent leur adresse.
Leur adresse, oui, prouver leur bravoure, leur force. Bon, ils ont pris à l'autre quelque chose, sont bien le plus précieux. Ils montrent qu'ils sont forts. Et aussi, bien sûr, l'acte le plus méritoire, c'est celui d'abattre un lion. On abat un lion, celui qui a abattu un lion, ça y est, c'est déjà quelqu'un. Les traditions, cette tradition d'initiation, pour eux, est de loin plus importante que l'enseignement, la scolarisation.
Oui, bien sûr, parce que c'est pour savoir...
Oui, c'est savoir faire comme ses ancêtres. Et les Maasai, eux, distinguent trois degrés d'âge, donc surtout pour le sexe masculin, parce que je vous ai dit, c'est une société, puisque c'est une société pastorale, c'est une société patriarcale. C'est beaucoup plus le sexe masculin. C'est lui qui a la prédominance. Et bien, pour le sexe masculin, il considère trois degrés d'âge. Vous avez les adolescents qui n'ont pas été circoncis, donc avant cette période de puberté, parce que la circoncision, enfin, à ce moment-là, à la puberté, vous avez les jeunes gens circoncis et qui sont en train d'accomplir leur période d'initiation, et les hommes mariés, ceux qui ont fini, qui ont rejoint le rang et qui sont là avec donc toute la population ou le village nomade, puisque quel village ? Eh bien, ces classes d'âge comportent d'importantes fonctions. Donc, au sein de la tribu, du groupe, qui sont des fonctions soit politiques ou alors militaires. Donc, les jeunes gens qui sont, comme je viens de vous l'expliquer, en période d'initiation, ont une fonction, elle est évidente, celle de protéger. Donc, ce sont des fonctions militaires. Mais quand ils sont adultes, quand ils sont avant d'être adultes, ils sont là pour apprendre, avant d'être circoncis. Mais quand ils sont adultes, à ce moment-là, ils ont des fonctions politiques. Ils sont soit chefs, ou alors ils aident, ils sont chef d'organisation sociale à l'intérieur du grand groupe donc de l'ethnie. Le sexe et l'âge sont deux éléments biologiques auxquels toutes les sociétés, hein, mais vraiment toutes les sociétés, je ne sais pas si vous l'avez remarqué au cours de nos différents voyages, toutes les sociétés ont conféré au sexe et à l'âge une importance sociale. Donc, c'est en tant que principe de qualification aux conséquences marquantes pour la constitution de la structure sociale. Eh bien, ces deux déterminismes, le sexe et l'âge, servent de manière différente d'une société à l'autre. Bon, quels que soient les groupes, des fois c'est soit le sexe qui est le plus important, choisi. Si c'est une société matriarcale, c'est le sexe. Si c'est dans d'autres sociétés, c'est beaucoup plus large. Il y a des sociétés où c'est quand on est très vieux que nous avons une importance considérable, et d'autres sociétés, c'est le contraire. C'est beaucoup plus la jeunesse. Les Maasai sont, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont très très beaux. Leurs femmes n'ont pas de coquetterie du tout. En fait, ils ont une forme de coquetterie. Et cette coquetterie est caractérisée par ceci. Elles n'ont pas de cheveux sur le crâne, elles se rasent le crâne. Alors que l'homme, au contraire, a des fois une toison très longue, enfin des cheveux tressés très très longs. Et les femmes n'ont pas. Et alors elles portent des espèces de bijoux qui sont des perles multicolores, surtout où il y a beaucoup de rouge, de blanc, de jaune, des perles tressées, donc enfilées, des toutes petites perles, et qui sont cousues sur des ronds de cuir qu'on met autour du cou. Alors ça vous fait que des espèces de grands cerceaux comme ça, lumineux, c'est très très beau, avec de longues tiges perlières, donc de perles comme ça, qui tombent. qui s'enroule autour de la tête, autour de l'oreille. Et les oreilles sont des oreilles, vous savez, le lobe de l'oreille est pendant, il est élargi, il est très très grand, vous pouvez, vous savez, des fois il a un diamètre de 20 à 30 cm, il pend comme ça le lobe. Parce que petit à petit, comment on arrive à ce genre de pratique, dès l'enfance, on commence par faire un petit trou, on met une pierre, puis une autre plus grande, plus grande, plus grande, jusqu'à distendre ce lobe. Et ça fait beau, c'est très joli, c'est un signe de coquetterie, c'est un signe de charme. Les hommes aussi ont ça. Et j'ai même vu d'ailleurs, entre autres, aberration, je crois que c'était en 1970, à la frontière entre la Tanzanie et sur le lac Manyara. J'ai vu un Maasai qui avait une boîte de conserve dans son oreille, dans son lobe. Parce qu'il avait trouvé ça, ça brillait, c'était très très beau.
Oui,
il avait mis une immense boîte de conserve dans son oreille. Pourquoi ? Parce que généralement, les hommes mettent dans leur oreille un anneau métallique. Alors lui, il a trouvé cette boîte, il l'a mise, et puis il a rabattu le couvert comme ça, on le voyait de loin, surtout avec le soleil. Ça vous fait rire, mais pour eux,
chacun ses traditions, quoi, sa façon d'être et de penser.
Et vous savez, c'est un peuple assez exceptionnel. Moi, je crois que c'est dommage que les autorités kényanes s'efforcent vraiment, c'est force de changer ce peuple. Vous savez, d'ailleurs, ces traditions, toutes les traditions des Maasai finiront sous la pression des autorités par disparaître. Et c'est parce que, justement, les Maasai sont appelés à se banaliser, hein, c'est parce que le pays Maasai est appelé à se banaliser, qu'il est devenu, donc, ces dernières années, un haut lieu de tourisme universitaire. Je dis tourisme universitaire, c'est-à-dire que vous avez toutes sortes de chercheurs, d'étudiants, des gens qui viennent de partout, pour y recueillir, avant qu'il ne soit trop tard, les ultimes témoignages d'un monde en perdition. Et c'est dommage que ce monde puisse disparaître.
Eh bien oui, c'est pourtant tristement vrai. Eh bien merci, Kadri Aga. Bonsoir à tous.